RCF.
Bonjour, bienvenue dans Vie de famille. Avoir une vie familiale harmonieuse, c'est plus facile quand on est bien dans sa vie professionnelle, parce que le travail est une partie importante de notre vie. Alors comment y conserver notre équilibre et notre enthousiasme? Pour répondre à nos interrogations, j'ai invité Valérie Poubelle, psychologue du travail. Bonjour Valérie Poubelle.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous avez toujours des explications très claires. Alors l'enthousiasme au travail, c'est un beau mot, mais justement en quoi ça consiste l'enthousiasme au travail?
Alors l'enthousiasme, c'est une émotion qui est sous-tendue par du plaisir, donc on pourrait appeler ça des motivations et puis aussi des valeurs. Au travail, on peut nourrir des motivations et des valeurs. Et quand ces motivations et ces valeurs sont suffisamment nourries, on entretient l'enthousiasme, qui est une sorte de joie intense. L'étymologie du mot enthousiasme, c'est transport divin. Donc on pourrait dire une joie particulièrement
c'est
porteuse.
Tout à fait adéquate dans notre radio, je vous rassure tout de suite. Bon, alors en fait, donc l'enthousiasme, tout le monde sait ce que c'est. Les bénéfices semblent assez évidents par rapport au stress ou à la confiance en soi, par hasard, par exemple.
Oui, alors l'enthousiasme, ça va permettre de générer une émotion positive, donc une énergie qui va continuer à nous pousser, justement, puisqu'il s'agit bien de quelque chose qui nous pousse à, comme la motivation, à agir, à faire des choses, à être en relation harmonieuse avec les collègues, avec la hiérarchie, avec les usagers, les clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui va en permanence, un petit peu comme un système, nourrir le plaisir, nourrir la motivation, et tant qu'il y en a, eh bien on avance.
Voilà, et je pense que c'est particulièrement précieux, dans quel que soit le lieu de travail, d'avoir une personne enthousiaste, parce que c'est agréable pour tout le monde.
Tout à fait. Une des premières difficultés au travail sont des relations tendues, difficiles. Quand les relations sont harmonieuses, on est heureux au travail, en principe.
Déjà, on est mieux, en tout cas.
Oui.
En tout cas. Mais alors, l'enthousiasme, on sait ce que c'est, mais est-ce qu'on sait quelle en est la clé?
Alors, l'enthousiasme au travail, en tout cas, puisque c'est ce dont il s'agit. Mmh. Alors, ça va être un plaisir qui va être nourri à la fois par le sentiment qu'on a du contrôle sur ce que l'on fait.
Donc, en fait, on est compétent dans ce qu'on fait.
Voilà, c'est ça. On a les compétences nécessaires et on peut faire ce qu'on nous demande de faire parce qu'on a les compétences, mais aussi parce qu'on a les moyens, donc l'information utile, le temps nécessaire, tout ce dont on a besoin pour faire le travail qui nous est demandé.
Bon, très bien. Et est-ce que c'est la seule source de plaisir au travail, ça, les conditions que vous venez d'énumérer?
Alors, le plaisir au travail, il est aussi nourri par les valeurs. Si les valeurs qui nous orientent dans notre vie personnelle, d'ailleurs, et professionnelle, sont suffisamment respectées et nourries, eh bien, on va continuer à avoir du plaisir. Et très souvent, au travail, on n'est pas bien quand les valeurs ne sont plus suffisamment nourries ou ne sont plus respectées.
Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais je pense que ce serait assez approprié de donner un exemple de valeur. Par exemple, il y a des gens qui travaillent pour de l'argent ou pour se dévouer au... Enfin, je ne sais pas, donnez-nous des exemples.
Voilà, par exemple, vous avez dans le milieu des soignants, très souvent, des personnes qui vont aimer passer du temps avec les patients. Et on va se retrouver dans des contraintes organisationnelles ou de personnel qui font que les soignants vont passer moins de temps et du coup vont perdre cette dimension-là du métier qu'ils avaient choisi parce que justement, ils étaient heureux de le faire eu égard à cette relation et cette qualité de relation qu'ils pouvaient mettre en place en ayant un minimum de temps. La relation, ça demande un peu de temps.
Et du coup, l'enthousiasme tombe, enfin en tout cas baisse. Puisque ces valeurs-là qui sont importantes pour chacun d'entre nous, on a chacun les nôtres, là n'est pas la question.
Voilà, parce que par exemple un soignant peut être plus attiré par la technique que par la relation. Dans ce cas, ça ne sera pas un problème s'il a moins de relations. Mais si c'est la relation qui domine dans ses leviers de motivation et dans ses valeurs, il va être en difficulté quand cette relation ne pourra plus être suffisante.
Oui. Oui. Alors ça, c'est une réponse à ce qui nourrit, pardon, le plaisir au travail. Mais je pense qu'il y a encore d'autres éléments qui.
Oui. Alors il y a le sentiment d'utilité. Hein, c'est ce que je fais est utile. Alors ça peut être utile à des personnes en direct quand on est dans le soin, mais ça peut être utile de façon plus indirecte si on écrit, par exemple, un écrivain. Il va toujours écrire, même s'il n'est pas en relation directe avec ses lecteurs, en pensant à ses lecteurs. Et donc, il va avoir envie d'apporter du plaisir aux lecteurs ou de l'intérêt.
Encore faut-il que... on va y venir. Allez-y, continuez.
Et donc, c'est justement ça qui va nourrir le plaisir. C'est l'idée que ce qu'il va écrire sera lu. Hein, donc, c'est la reconnaissance aussi qui va être importante.
Oui, justement. Vous faites bien d'en parler parce que le sentiment d'utilité s'appuie sur le fait que nous sommes reconnus dans ce que nous faisons.
Oui, c'est ça. En effet, quand il n'y a plus suffisamment de reconnaissance, eh bien, on va se retrouver en difficulté parce qu'il n'y a aucun humain qui aime faire des choses qui sont inutiles.
Oui, effectivement, s'ennuyer à faire quelque chose qui ne sert à personne, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Et puis, alors, être reconnu par l'utilité, mais est-ce que le regard de notre patron, par exemple, ou de nos collègues est important aussi?
Oui, la reconnaissance, elle est importante de la part des pairs, hein, P-A-I-R. S.
Vous faites bien de préciser.
C'est-à-dire les collègues et aussi la hiérarchie, parce que la hiérarchie va donner de l'information, va évaluer, et ça va permettre de réguler l'activité. Hein, souvent, on considère que l'évaluation d'une activité, ça dépend évidemment comment elle est faite, c'est quelque chose de contrôlant et désagréable, mais le contrôle, quand il est bien fait, il peut être un signe de reconnaissance. Hein, si on ne s'intéresse jamais à ce qu'on fait, eh bien, on n'aura pas de signe de reconnaissance évident et ça peut gêner certaines personnes. Et c'est vrai que les collègues aussi, c'est important parce que quand on va être reconnu dans son travail, on va prendre sa place au sein d'une équipe et on va nourrir son sentiment d'utilité et aussi nourrir l'envie de travailler en équipe, de partager.
Voilà, et le côté relationnel que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, nous sommes des êtres sociaux. Hein, ouais. Le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance, c'est un des besoins fondamentaux des individus au travail et dans la vie en général d'ailleurs.
Ouais. Oui. Alors, une des autres sources de plaisir, est-ce que ça pourrait être la motivation, par exemple? Parce que je pense que si je suis très motivée pour aller réparer des canalisations, si je suis plombier, parce que je ne sais pas, est-ce que ça peut être une des sources de plaisir?
Ah oui, en fait, la motivation, c'est, sans faire de jeu de mots, c'est le motif à l'action. Hein, c'est qu'est-ce qui va motiver l'action? Donc ça va être des objectifs qui vont être clairs. Et puis, ça va être également quelque chose qui va être relié aux valeurs. Hein. Tout ça, c'est systémique, donc c'est un petit peu compliqué. Les motivations, les valeurs, le sens au travail et les besoins sont intimement liés. Hein. C'est cette combinaison d'un ensemble de choses qui va nous permettre de conserver de la motivation, du plaisir, de l'enthousiasme au travail.
Oui, alors, pardonnez-moi, mais il me revient... Justement, quand on a parlé du sentiment d'être reconnu, nous sommes ici dans l'émission Vie de famille, je le rappelle, je suis avec Valérie Poubelle. Et par rapport à la famille, si une femme ou un mari a un métier qui n'est pas reconnu ou au contraire, qui a beaucoup d'admiration parce qu'il fait ci ou elle fait ça, est-ce que c'est important ça?
Oui, ça va être important parce que forcément, le regard du conjoint est toujours important dans l'équilibre de la vie d'une personne. Et aussi, ça va être important pour pouvoir échanger, comprendre les difficultés de l'autre partenaire dans le couple. Et c'est vrai que c'est important de s'intéresser au métier de l'autre. Quand on ne le connaît pas, hein, pour reconnaître, il faut connaître. C'est ça qui est important.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'un métier qui n'est pas reconnu, c'est parce qu'il n'est pas connu.
Très souvent, c'est le cas. Il est méconnu.
Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que quand on se connaît, quand on n'a qu'une vague idée de ce que recouvre tel ou tel terme. Bon, mais c'est pas pour ça forcément qu'on le mésestime.
Non.
Et ça peut arriver.
Être curieux de l'autre, ça fait toujours du bien. Et
oui.
Dans un couple, c'est important.
Voilà, et c'est là que c'est un des points de jonction entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est cette reconnaissance par la famille.
Oui, tout à fait. La reconnaissance par la famille, les enfants, la famille élargie. C'est important parce qu'il y a des personnes qui souffrent au travail parce que leur métier n'est pas reconnu par l'entourage social et familial.
Donc, pour parler familièrement, ils vont au travail comme un chien qu'on fouette et c'est pas très, très productif. Et là, l'enthousiasme est complètement inexistant.
Oui, puis on se sent isolé quand on revient chez soi et qu'on ne comprend pas ce que l'on fait à la maison. C'est compliqué parce que du coup, on pourra pas parler des difficultés et on va avoir tendance à l'enfermement, à l'isolement.
Ouais.
Et c'est ni bon pour la personne, ni pour le couple, ni pour la famille.
Donc vous êtes en train de souligner l'importance d'avoir un équilibre dans notre vie globale, en fait, dans notre vie totale.
Oui, le travail, c'est une partie de la vie.
Oui, comme je le disais en introduction.
Voilà, aujourd'hui, c'est plus une grosse partie. Là, on a une réduction du temps de travail depuis 2 siècles maintenant. Mais c'est quand même important, puisque ça prend quand même une journée. Et c'est l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sociale qui va permettre justement d'être dans le bien-être dans sa vie et donc au travail.
Bon, et ces trois éléments donc sont vraiment majeurs dans l'équilibre des personnes, mais est-ce que vous en auriez pas un autre en réserve ?
Oui, alors on dit que l'équilibre d'une personne, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Donc on va avoir le pied de la vie sociale, la famille, les amis, les conjoints. Alors il y a des auteurs qui vont distinguer la vie sociale et la vie familiale, donc ça nous en fait déjà 2 pieds.
Mmh.
Et puis vous allez avoir la vie professionnelle, la qualité de vie professionnelle, et moi je rajoute la santé.
Et la santé, ça c'est effectivement un domaine qui est hyper important parce que si vous êtes en bonne santé, vous travaillez quand même beaucoup plus facilement et puis votre vie familiale est également nettement épanouie. Alors la santé au travail, c'est tout un thème que nous allons aborder après cette petite pause traditionnelle.
RCF.
Vie de famille, toujours avec Valérie Poubelle, pour parler de conserver son enthousiasme et de rester en bonne santé au travail. Nous avions juste évoqué cet élément de la santé. Alors, la santé au travail, en fait, c'est composé de quoi ? En dehors de la santé physique, s'entend.
Oui, alors dans la santé au travail, on a la santé physique et la santé psychique. La santé psychique va dépendre à la fois de comment on vit le travail, entre guillemets, à l'intérieur de soi,
oui.
Et comment on vit le travail à l'extérieur, donc dans ses relations avec les collègues, la hiérarchie, les usagers, les clients.
Oui, très bien. Alors, pour reprendre votre formule, on va commencer par comment on ressent le travail à l'intérieur de soi. Peut-être que c'est ça le point où ça peut accrocher parfois. Quel est le premier point délicat que vous soulèveriez ?
Alors, comment on se sent à l'intérieur ? En fait, le travail, c'est quelque chose qui va générer à la fois du plaisir et des frustrations. Et on va être heureux au travail s'il y a un équilibre entre ce qu'on appelle les contraintes, hein, puisque le travail est fait de contraintes, il y a des horaires respectés.
Ceux qui ne l'avaient pas remarqué viennent me le dire.
Il y a des délais, il y a des tas de choses, de la réglementation, un cadre à respecter.
Oui.
Et donc ça va être une somme de contraintes. Et puis il y a tout le plaisir dont on a parlé en première partie, toutes les sources de plaisir qui vont nous permettre de trouver une espèce d'équilibre. Et tant que, comme une balance un petit peu à 2 plateaux, on aurait d'un côté les contraintes, de l'autre côté les sources de plaisir, tant que les sources de plaisir ou le plaisir généré par le travail est supérieur aux contraintes, on va se sentir bien.
Oui, alors évidemment tout ça est très subjectif.
Tout à fait, oui, ça c'est, puisque c'est de toute façon comment on le perçoit de façon interne, dans sa tête, dans son cœur, dans ses relations.
Mais bon, alors on a compris que c'est vraiment cet équilibre entre le plaisir et les contraintes. Et lorsque les contraintes l'emportent, ça génère du stress.
C'est ça, ça va générer du stress, donc un stress qui peut être plus ou moins important. Alors le stress en soi, c'est pas un problème, c'est initialement un mécanisme d'adaptation.
Oui, on nous répète ça sur tous les tons, j'ai entendu. Mais pourtant, on voit partout que ben, comment on fait le stress et « Ah, j'ai un stress, je ne sais pas quoi faire. » Enfin.
Oui, le stress, en fait, il est généré quand on va considérer qu'on ne peut plus agir, qu'on est bloqué dans une situation et qu'on n'a plus du pouvoir sur cette situation. Donc ça va générer du stress au travail. Et donc, il y a des multiples sources de stress au travail. On peut apprendre à le gérer. Ce qui fait mal, c'est soit un stress élevé qui arrive souvent.
Oui, le gros coup de feu, quoi.
Voilà, le gros coup de feu. Si derrière, il n'y a pas des moments de récupération suffisants, on va commencer à se fatiguer. Et puis, il y a aussi le stress chronique à petites gouttes, les petites tensions relationnelles, les petites contrariétés qui, jour après jour, vont venir faire peser le plateau de la balance des contraintes.
Oui, cette espèce de sentiment que finalement, j'arrive jamais à me détendre entre deux moments de stress, quoi.
Voilà, et là, on va être sur la pente difficile, voire dangereuse de l'usure professionnelle.
Oui. Alors justement, on en vient aux conséquences du stress parce que il y a malheureusement des conséquences qui peuvent être très dommageables quand vous parlez d'usure.
Oui, on va avoir des conséquences sur le corps. Donc le stress fait chuter les défenses immunitaires. Donc on peut développer toutes sortes de maladies. Et puis le stress va rendre irritable. On va avoir des troubles de l'humeur.
Oui, hein, malheureusement pour l'entourage et pour soi-même.
Voilà, puis on va avoir le cortège des choses habituelles. Des insomnies, des troubles digestifs, des problèmes de dos, des migraines, toutes sortes de difficultés physiques.
Bon, d'accord. Alors, Valérie Poubelle, je crois qu'on a compris le message. On va essayer d'apprendre à gérer notre stress. Donc, ça, c'est un premier élément de la santé psychique au travail. Comment on peut encore renforcer cette santé psychique, pardon, je dis des bêtises, comment peut-on renforcer cette santé psychique au travail?
Alors, la santé psychique, ça s'entretient aussi par le physique, donc ce sont des choses qu'on entend tout le temps, hein, se reposer suffisamment, faire du sport, avoir une vie équilibrée, se nourrir convenablement, mais aussi sur le plan de la relation au travail, on peut essayer de développer la qualité relationnelle, donc la qualité de la relation avec ses collègues, en se formant à la communication, en développant son intelligence émotionnelle, par exemple, en apprenant à gérer les événements de façon plus positive. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de pistes.
Oui, oui, il y a toutes sortes de pistes. Alors, développer son intelligence émotionnelle, ça, vous étiez déjà venu nous parler de la gestion des émotions et on a vu à quel point c'est important pour avoir justement une approche équilibrée et puis se sentir bien, quoi. En gros, vous venez d'évoquer la gestion des événements et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde.
Oui, alors dans la gestion de l'événement, il y a différentes façons de gérer les événements. Quand un événement vient nous déranger, on a un petit peu tendance tout le temps à être dans une sorte de rumination mentale, ce que nous, les psychologues du travail, on appelle chez nous, là, dans le cabinet où je travaille, le scénario pile. C'est-à-dire qu'on va commencer à ruminer et puis à se dire que c'est la faute d'un autre. Ça va être, par exemple, si vous êtes... vous avez un rendez-vous qui est important et puis le réveil n'a pas sonné, donc vous êtes en retard, vous prenez la voiture.
Vous êtes coincé dans un embouteillage.
Vous êtes coincé dans un embouteillage, donc tout le monde va en prendre pour son grade, comme on dit. Donc on va avoir ou l'épouse ou le mari qui n'a pas réveillé à temps, ou bien le chauffeur de taxi qui n'a pas pris la bonne route, ou bien on va être dans un discours d'auto-dévalorisation, on va se dire j'aurais dû y penser, j'aurais dû prendre une autre route. On va commencer à se dire tout ce qui va aller de travers à cause de cet embouteillage, donc on va avoir des problèmes au rendez-vous, on va se faire virer, enfin voilà, on commence à faire tout un scénario négatif, hein, ce qu'on appelle la boule de cristal négative, on va commencer à anticiper tout ce qui va aller de travers, et pendant qu'on fait ça, on est dans un scénario pile, c'est-à-dire du pourquoi, qui nous fait faire du surplace.
Hein, on pile, ah mais en fait. C'est ce que j'allais vous dire, parce que tout ça c'est très gentil, mais en même temps, ça ne me fait pas sortir de mon embouteillage et ça ne me fait pas trouver de solution en fait.
Voilà, en fait, c'est quand on fait ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui va activer la vigilance et la notion du danger, de tout ce qui risque de nous arriver. Donc, en même temps, ce n'est pas la peine de s'en rajouter en disant « je me culpabilise parce que je rumine ». Je pense que la première des choses, c'est de se dire « bah oui, c'est vrai, je rumine, c'est normal, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire face ?»
Voilà, c'est ça. On ne s'auto-accuse pas encore en plus. On se dit « bon, et maintenant, comment ?»
Voilà, donc c'est le scénario face, c'est comment je peux faire face. Et là, c'est commencer à réfléchir à la résolution du problème. En quelque sorte, il s'agit plutôt de passer rapidement du pourquoi ça arrive au comment je peux faire pour m'en sortir.
Alors, admettons-le, on est là, on est déjà presque en retard, on est coincé dans notre voiture, on n'a pas forcément de solution et on peut peut-être pas sortir de l'embouteillage, mais peut-être qu'on va chercher une solution pour joindre la personne, etc.
Voilà,
etc.
Par exemple, oui, joindre la personne, inviter sa femme à dîner si on s'est disputé le matin parce qu'elle avait oublié de nous
c'est
réveiller.
C'est pas mal non plus, je suis assez d'accord avec cette option-là.
Louer une voiture pour se rendre au rendez-vous en prenant les transports en commun et sortir de l'embouteillage, faire toutes sortes de
bref,
choses.
Bref, donc voilà. on essaie de vraiment être créatif par rapport à
c'est
cet
ça.
Événement qui nous perturbe quand même pas mal. Voilà, bon alors, on avait donc dit le stress qu'il faut gérer, développer son intelligence émotionnelle, gérer les événements.
Oui.
Également, voilà, qu'est-ce que vous nous diriez encore qui est important pour notre santé au travail ?
Alors, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est travailler sa communication.
Ah, ça, c'est jamais inutile, que ce soit en famille ou au travail.
Voilà, il y a
ça,
toutes c'est... sortes de stages. Alors, il y a une petite chose qui est toujours intéressante dans la communication. Souvent, on va chercher à dire des tas de choses autour de nous. Et vous connaissez sans doute... dans la communication, les trois filtres de Socrate.
Eh bien, si vous pouvez les rappeler à tout le monde, y compris à moi, ce sera très bien.
Eh bien, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, c'est toujours intéressant de se demander si ce qu'on va dire est vrai, si ce qu'on va dire est utile ou si ce qu'on va dire est bon.
Ben, vous venez de sabrer une bonne partie des conversations, là, vous ne croyez pas ?
Oui, c'est vrai, parce que si ce qu'on, comme le disait, plutôt comme le dit la petite histoire de Socrate, si c'est ni vrai, ni bon, ni utile, il vaut mieux se taire.
Ben, effectivement, mais ceci dit, pour la communication, ça passe quand même par un petit peu de parole. Donc, ça veut dire qu'apprendre à parler de choses bonnes, utiles, c'est ça ?
Voilà. Est-ce que ce qu'on va dire est vrai pour vérifier que c'est factuel, ce qu'on dit et qu'on n'est pas uniquement dans le commentaire ? Est-ce que c'est bon pour la personne ? En quoi ça ne va pas être nocif ou toxique ? Ça, c'est important pour justement prendre soin et respecter l'autre. Là, il y a des tas de sortes de méthodes de communication qui existent. Hein. Parler en message « je » plutôt que d'être dans le « tu fais ceci, tu fais cela », dans le reproche, dans le « tu qui tu ». Et puis, est-ce que c'est utile, finalement, ce que je vais dire là ? En quoi ça va être utile à celui à qui je transmets l'information. Et ça économise l'énergie et le temps. Et au travail, c'est quand même très important.
Alors, on approche de la fin de l'émission. Donc, j'aimerais bien que vous nous donniez un dernier élément pour prendre soin de notre santé au travail.
Alors, c'est travailler sur ce qu'on appelle les pensées toxiques ou parasites. C'est à relier au scénario pile. C'est tout ce qu'on peut se dire qui vient finalement nous manger de l'énergie. On va avoir des choses autour de la généralisation, par exemple au travail, quand il y a une erreur quelque part dans une procédure, on va par exemple dire la procédure, elle est mauvaise, personne n'arrive à l'appliquer. Ça, c'est une généralisation, il faut faire attention à ce genre de choses.
Ouais.
Ou bien elle m'a répondu sèchement, elle me déteste, là on est dans le raisonnement binaire. Ou bien il est en arrêt maladie, c'est sans doute à cause de l'entretien de recadrage d'hier. Là, on est dans quelque chose d'imaginaire.
Bon, alors toutes ces pensées parasites, en fait, nous mangent l'énergie. Et garder l'énergie et la santé au travail, c'est votre but, Valérie Poubelle. C'est pour ça que vous accompagnez aussi des personnes. Donc, conserver son enthousiasme et rester en bonne santé au travail, c'était le thème d'aujourd'hui. Merci David Mainfroy qui a assuré la technique de cette émission.
Merci.